Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, Vox Polony, c'est son nouveau surnom, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Vox Polony. Merci Gilles pour l'étude que vous venez de réaliser pour la Fondation Jean Jaurès. Elle remonte vraiment le moral et nos auditeurs comprendront pourquoi dans un instant. Pour commencer, une présidence tournante qui se prépare. C'était jeudi, conférence de presse du président de la République.
C'est notre premier défi. Nous devons avoir une Europe qui regarde l'avenir, l'optimisme et qui donne la confiance à notre jeunesse qu'on sait embrasser nos défis et créer des emplois. L'Europe du plein emploi, elle est décisive si on veut garder une Europe de la prospérité et de la paix.
Le président de la République française qui préparait donc la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui commencera le 1er janvier prochain. Grand discours, une heure pour résumer donc en une phrase l'objectif de cette présidence. Je reprends les mots du président de la République. Il dit que nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. On croirait que vous auriez pu écrire ces mots, Natacha Polony.
C'est d'ailleurs ce qui est en général assez amusant avec Emmanuel Macron, c'est que sur les discours, en effet, c'est grandiose, c'est lyrique et c'est formidable. Et on écoutait son discours et on se disait, mais c'est génial, l'Europe va bien. Et ce qui est intéressant dans ce discours, c'est d'abord tout ce qui n'y est pas. Tous les sujets qui sont soit évoqués avec une discrétion absolument extraordinaire, soit justement savamment évités. Parce que il y a des ambitions dans ce discours, et des ambitions intéressantes, on ne va pas le nier, d'autant qu'il y a des choses qui se sont passées en Europe, des prises de conscience, on en parle ici assez souvent, depuis quelques années, et dont on peut se réjouir qu'elles soient enfin arrivées. Mais quand on entend Emmanuel Macron, par exemple, nous évoquer l'idée de clause miroir sur le climat.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est très sympathique, les clauses miroirs. Ça veut dire que on demanderait, quand on signe des traités de libre-échange, on demanderait aux pays avec lesquels on signe ces traités qu'ils respectent des normes qui sont à peu près équivalentes aux nôtres dans la mesure où ça permettrait et qu'ils nous laissent pénétrer leur marché comme nous les laissons pénétrer le nôtre. Ce qui permettrait d'éviter, tout simplement, de créer un dumping écologique, environnemental. C'est formidable, mais on a l'impression on a quand même un président qui a trouvé génial le CETA, le traité de libre-échange avec le Vietnam, qui trouvait le traité avec le Mercosur parfait avant que Jair Bolsonaro ne soit pointé du doigt comme un méchant populiste, mais en revanche l'idée de faire venir du soja OGM qui est produit sur la déforestation brésilienne, ça ne dérangeait pas. Donc on a l'impression d'avoir en permanence quelque chose qui est repoussé à plus loin pour éviter de traiter maintenant ce qui ne va pas en Europe. Et c'est vrai pour ce sujet-là, je viendrai tout à l'heure sur les questions d'énergie, sur les questions d'extension de l'Europe, sur les questions donc d'appartenance, puisque c'est une des thématiques mises en avant par Emmanuel Macron.
Enfin,
y a tout, sur tous les sujets, c'est à peu près la même
priorités.
Chose.
Vous fredonnez l'ode à la joie, Gilles?
Je crois que pour les auditeurs, ça serait mieux que non. On a une présidence de l'Union européenne qui va être courte puisqu'elle va être traversée par l'élection présidentielle française, mais qui va être très intense. Hein. Quand on regarde, Natacha Polony disait tout ce qui n'y est pas. Quand on regarde tout ce qui y est et le nombre de réunions interministérielles qui sont prévues, on voit vraiment que Emmanuel Macron a l'intention d'essayer de faire quelque chose de cette présidence.
Il fait la liste de ce qu'il a indiqué comme priorité, la réforme de l'espace Schengen, l'accélération de l'Europe de la défense, la réforme des relations entre le vieux continent et l'Union africaine, un nouveau modèle de croissance, un nouveau cadre budgétaire, le monde numérique, enfin bref, c'est vrai que la liste est très très longue.
Tout y est, ou presque. Il faut bien voir que, contrairement à l'image que l'on peut peut-être en avoir, la fonction de présidence de l'Union européenne est une fonction institutionnellement modeste. Le pouvoir est exercé par un triangle et la Commission a son président. Le Conseil de l'Union européenne des chefs d'État et de gouvernement a son président. Le Parlement a son président aussi. Et donc, en réalité, Emmanuel Macron ne préside rien. Mais la France, parce qu'elle préside l'Union européenne, notamment les ministres, présideront toutes les réunions, les nombreuses réunions ministérielles qui ont été évoquées. Et là, il y a un rôle pour d'influence, pour finaliser des dossiers qui ont déjà avancé ou pour initier d'autres priorités. Et c'est cette coloration-là.
Et chercher des compromis entre les différents États membres.
Absolument. Donc, la fonction, elle est institutionnellement modeste, mais elle est politiquement très importante parce qu'elle ne tombe pas dans n'importe quel moment. Chacun l'a bien compris puisqu'elle est au cœur de cette élection présidentielle. Ça a pour objet à la fois de, ça va conforter la stature d'Emmanuel Macron. Là où les autres seront candidats, lui non seulement sera président de la République française, mais en plus président de l'Union européenne. Il ne sera pas seulement au milieu des candidats, il sera au milieu des chefs d'État. Ça va réactiver son identité politique, à la fois la sienne et celle de son électorat, puisque c'est autour de l'engagement européen, notamment, que s'est constitué ce rassemblement avec des électorats qui étaient très divers, mais qui avaient en commun un engagement européen fort. Et ça va jouer, et là on vient sur le fond, un rôle de complément politique, de sujet qu'il a eu des difficultés à faire déboucher au niveau national. Je pense à la taxe carbone, difficulté avec les gilets jaunes. Là, on essaie de faire au niveau européen une taxe aux frontières. C'est vrai au niveau de sur l'immigration avec la réforme une
de
nouvelle
Schengen.
Fois de Schengen, etc.
Natacha.
Oui, j'avais pointé lors d'une précédente émission la question cruciale du temps de parole. Il me semble que la conférence d'hier a démontré à quel point, en effet, cette question allait se poser, puisque une conférence comme celle d'hier relève de sujets européen officiellement, et donc pas de questions intérieures, donc a priori n'est pas comptabilisé dans le temps de parole du candidat Emmanuel Macron quand il sera candidat. C'est un problème qui va se poser, mais bon, je pense que ce n'est pas le plus ennuyeux, et que la question c'est celle en effet de ce qui va être fait globalement de cette présidence
française.
Mais est-ce
que vous êtes d'accord avec l'idée de Gilles que ça va réactiver un des clivages fondamentaux sur la scène politique, en tout cas entre ce qu'on peut appeler pro-européen rapidement, et même si vous n'aimez pas cette distinction-là, souverainiste?
Bah justement, oui, ça va mettre en avant un clivage factice. Et c'est bien le souci,
factice,
je pense. Mais oui, totalement factice, parce que le problème n'est pas de savoir si on est pro-européen ou anti-européen. Justement, si on analyse le discours d'hier, ce qui est intéressant, c'est de se demander de quelle Europe on parle, quels sont les moyens pour la faire évoluer, vers quoi on veut aller. Et par exemple, je prends quelques exemples. Quand Emmanuel Macron parle des Balkans occidentaux, il explique qu'il faut absolument traiter le problème et faire en sorte que l'Europe gère ce qui est en train de se passer dans les Balkans occidentaux. En gros, il est en train de nous dire il faut intégrer l'Albanie et le Kosovo à l'Union européenne. Sauf qu'il ne le dit pas comme ça. Or, il y a réellement un problème, c'est-à-dire l'entrisme turc dans ces zones-là, la façon dont justement l'Union européenne peut les gérer sans pour autant provoquer une fois de plus une nouvelle forme de dumping social par l'intégration de pays qui n'ont absolument pas les mêmes normes, les mêmes règles et qui sont de...
Et puis, il faudra un référendum en France,
de nos règles.
Quoi qu'il arrive.
Voilà, mais tout ça n'est pas dit. On parle de la question de la gestion des Balkans occidentaux. À aucun moment, Emmanuel Macron ne prononce le mot nucléaire, c'est-à-dire qu'il nous parle en effet d'énergie décarbonée. Il ne pose pas le problème qui est le problème majeur, qui va être le bras de fer entre la France et l'Allemagne sur la question du nucléaire. Donc derrière tout ça, en fait, le problème, c'est de savoir comment on fait de l'Europe un outil, pas seulement de puissance, comme il le dit, mais un outil de protection des citoyens européens et un outil démocratique. Il va y avoir un débat fondamental entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne, par la coalition qui vient d'arriver au pouvoir, veut un sceau fédéral. Emmanuel Macron, là, dans son discours, se situe en fait dans une vision intergouvernementale. Ça va cogner à un moment donné. Et l'Allemagne est dominante actuellement dans les institutions et sur le plan économique. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va vers une Europe allemande ?
Gilles Finkelstein.
Oui, deux remarques. Sur la place de l'Union européenne dans la campagne, je pense qu'on sera sur un débat de plus faible intensité qu'en 2017. Parce que Emmanuel Macron ne brandit pas le drapeau européen de la même manière qu'en 2017. Et surtout parce qu'en face, tant Jean-Luc Mélenchon et son plan B de 2017 et Marine Le Pen et le retrait de l'euro ne sont plus exactement sur les mêmes positions. Donc, je pense que le débat sera de plus faible intensité, mais il y aura une présence continue du débat européen grâce à cette présidence. Deuxième remarque, pour réagir à ce que disait Natacha sur la capacité de la France à faire bouger l'Europe, elle a, Emmanuel Macron a deux chances dans ce moment. Le premier, c'est que l'accord de coalition en Allemagne, malgré tout, est sur des positions qui sont, je crois, plus proches de celles qui sont les siennes, et qu'il y a en tout cas une volonté allemande d'avancer et donc des possibilités de compromis à trouver, y compris sur les questions énergétiques, puisque la France veut que le nucléaire soit aidé et les Allemands veulent que le gaz soit aidé. Donc on va voir s'il y a des compromis possibles. Et puis la deuxième chance, juste d'une phrase, c'est que la Commission a été élue il y a deux ans. Il y a des textes qui sont à maturité. C'est un bon moment pour faire avancer les choses.
Le duel continue.
Le grand face-à-face, le duel.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink.
Traduction, Natacha.
Tellement fatigué.
Exactement, je suis tellement fatigué des Beatles et ça pourrait servir de bande-son, de bande originale à l'enquête que vous venez de publier à la Fondation Jean Jaurès, Gilles, une enquête menée avec l'Institut Ipsos. Quand on demande aux Français quel est le premier mot qui leur vient en tête pour qualifier leur état d'esprit, ils répondent...
Ils répondent fatigue.
Fatigue.
Et ils répondent fatigue au milieu de 12 autres mots qui leur étaient proposés et qui étaient sur des registres très différents. Il y avait à la fois de l'incertitude, inquiétude, espoir, confiance, sérénité, enthousiasme,
mais non,
colère, révolte,
fatigue.
Fatigue en numéro 1.
Tous fatigués. Et j'aimerais savoir quelles conclusions politiques et sociales pouvez-vous en tirer, puisqu'on n'est pas chez le psy et que nous n'allons pas commencer une thérapie collective, même si ça pourrait être intéressant. Mais quelles conséquences politiques, Gilles ?
D'abord, c'est nouveau que dans le débat public, l'acceptation de reconnaître qu'on est fatigué soit présente comme ça. C'est ce qu'explique Serge Effèze on fait un travail en commun avec la CFDT sur ce sujet-là, et dans le rapport qu'on fait, Serge Effèze dit c'est en fait normalement on n'a pas le droit d'être fatigué dans nos sociétés. Maintenant, on reconnaît que on peut être fatigué. On voit qu'il y a un portrait robot des gens qui sont plus fatigués que les autres, notamment les femmes de moins de 35 ans. Beaucoup plus fatigués que le reste de la population, les employés, les salariés du public. Bon, et tout ça a des conséquences personnelles, hein, mais ça a aussi des conséquences politiques, parce que on voit que ceux qui se disent fatigués sont moins enclins à s'intéresser dans la même enquête au débat public, à l'élection présidentielle, à attendre quelque chose du collectif, et que donc il y a une forme de repli, et donc c'est un sujet qui est un sujet de société et un sujet politique.
Natacha.
C'est un sujet de société. Je me souviens de ce livre absolument passionnant du sociologue Alain Ehrenberg qui s'intitulait « La fatigue d'être soi » et qui était une réflexion sur ce mal du siècle qu'il pointait, qui était la dépression. Et en fait, il me semble que le coronavirus, la crise du coronavirus, a amplifié une tendance qu'on voyait pointer dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire que la confrontation brutale à la mort, à l'incertitude qu'a impliqué cette crise sanitaire, est venue percuter l'absence de ritualisation, la fragilité de sociétés qui n'ont pas réussi, en fait, à répondre à la question du sens.
C'est-à-dire que en France plus qu'ailleurs.
J'allais dire dans la confrontation. Enfin, comment dire. Quand vous avez des sociétés qui sont des sociétés d'ordre, des sociétés religieuses, il y a une réponse facile et automatique à cette question du sens. Et la confrontation à la mort, permanente hein, dans les sociétés qui nous ont précédés, est résolue et soignée par cette réponse simple, qui est celle de l'ordre des choses. Nous sommes dans des sociétés qui ne répondent plus à cela, et tout à coup ressurgit la question de la mort, et les individus se sentent isolés, seul, sans réponse. Il n'y a même plus de ritualisation temporelle. Ce qui est intéressant dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès, c'est aussi cette question de la de la fragilité face à l'incertitude dans le temps, l'impossibilité de se projeter. Quand vous avez en fait des sociétés qui ritualisent le temps, c'est beaucoup plus facile. Nous, nous sommes dans des sociétés où chaque individu construit son propre agenda. Et là, tout à coup, ce n'est plus possible. Ça crée une fragilité profonde là aussi. Donc je pense que c'est autour de la question du sens, de la capacité à trouver la place de chacun et une place et une construction collective face à la confrontation, à la mort et à l'incertitude. C'est vers ça qu'il faut aller. C'est extrêmement complexe dans une société laïcisée.
Alors, si on essaye de réfléchir aux causes, comme vient de le faire Natacha, d'abord, il y a des causes physiques. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles la sédentarité est de plus en plus importante et on voit que la capacité pulmonaire des jeunes, par exemple, est plus faible que celle d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans et donc c'est aussi un facteur de fatigue. De la même manière et de manière très spectaculaire, le temps de sommeil a considérablement diminué. En 50 ans, on perd 1h30 de sommeil. Vous avez aujourd'hui le pourcentage de Français qui sont des petits dormeurs, c'est-à-dire qui dorment moins de 6 heures par nuit, est passé en 10 ans de 10 à 30%. Donc, il y a d'abord, il y a aussi une origine physique, c'est qu'on dort peu et on est trop sédentaire. Dans les causes plus sociétales, il y a ce qu'évoque Natacha, le livre d'Alain Ehrenberg, La fatigue d'être soi, c'est-à-dire une interrogation existentielle d'une société, des individus dans lequel chacun, je reprends sa formule, doit être l'entrepreneur de sa propre vie. Et ça, ça fait peser une pression qui est très forte sur les individus et qui explique aussi ça. À cela s'ajoute...
Avec une surconsommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques.
Oui, d'un
Mais
côté
pourquoi
ça...
pourquoi cette exception française ?
Et d'un autre côté, une hyper sollicitation technologique qui aussi... C'est une consommation d'écran, perte, trouble du sommeil qui est forte, des tensions professionnelles, des tensions sociales... Tout ça, en réalité, pose
une question... Mais ce que vous décrivez pourrait valoir pour des dizaines de pays. Moi, je veux qu'on parle du cas français.
Parlons du cas français. Je pense que dans ce qu'expliquait Gilles, la spécificité française, je reviens un tout petit peu à ce que je disais, c'est la question de la sécularisation de la société. La société française est davantage sécularisée, ce qui est en fait beaucoup plus exigeant pour les individus, puisque on s'appuie sur leur liberté, sur leur émancipation, et ça crée des fragilités. Il y a cette dimension-là, et il y a la question de la crise démocratique spécifique de la France, qui ne permet pas justement de construire un horizon collectif et d'apporter une réponse par un cheminement politique. Ça rend les choses plus violentes, me semble-t-il.
D'un mot, Gilles, avant de passer au prochain sujet.
Oui, tout ça pose en réalité fondamentalement la question de notre rapport au temps, qui est ce que j'avais écrit, la dictature de l'urgence, c'est il y a 10 ans, et de ce que l'on voit quand on interroge les Français sur le changement climatique et la nécessité de changer en profondeur nos modes de vie, elle est posée là aussi avec ce rapport-là.
Je voudrais juste ajouter une chose. Nous avions pointé à Marianne, il y a déjà plus d'un an, 1 an et demi, la question de l'augmentation des suicides chez les jeunes femmes de moins de 35 ans. On voyait que sans que nous soyons capables d'expliquer les causes, mais nous avions observé cela. Ça rejoint ce que disait Gilles, et je pense qu'il y a là une attention qui devrait être portée sur ce sujet.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
La droite est de retour. Et c'est une droite à la fois de conviction, mais aussi de solution. Et ce dont les Français ont besoin, c'est d'un programme alternatif à celui d'Emmanuel Macron. Mais au-delà, je vais aller parler aux Français, à ceux qui s'abstiennent, à cette France des ronds-points, à ceux qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, à ceux qui ont peur pour leur sécurité, pour leur mode de vie. Je vais aller leur parler parce que nous avons des solutions. Vous savez, les diviseurs n'ont jamais été les sauveurs de la France dans l'histoire. Donc je ne crois pas que les extrémistes aient la solution.
C'était Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, candidate Les Républicains à l'élection présidentielle. C'était sur le plateau du JT de TF1. Un discours offensif et un mot important qu'on a entendu, c'est le mot alternance. Alternance, nous sommes l'alternance à Emmanuel Macron. C'est comme ça qu'elle présente sa candidature. Qui l'eût cru, Gilles ?
Je provoque
une forme de perplexité, mais que le candidat Les Républicains apparaisse aujourd'hui, ou la candidate Les Républicains apparaisse aujourd'hui, ou s'approprie ce mot d'alternance,
Eh bien, moi, d'abord, elle est obligée de présenter sa candidature comme une alternance à celle d'Emmanuel Macron, et que le candidat des Républicains soit en situation n'est pas si étonnant que ça. On l'avait déjà évoqué dans des émissions précédentes. Valérie Pécresse est la superstar, au moins de la semaine. Après, elle fait la une de nombreux news magazines. Il faut à la fois essayer de comprendre pourquoi elle a gagné. Parce que c'est pas si évident que ça, même si elle a gagné de très peu, si elle a gagné au premier tour de très peu et tout s'est joué au premier tour. Il y avait à la fois une dimension, je crois, purement organisationnelle, c'est-à-dire que elle a été de la région qui a le plus d'adhérents républicains et qui a connu la plus forte progression. C'est tout le talent de Patrick Stefanini, son directeur de campagne. D'un point de vue idéologique, elle était positionnée dans la droite ligne du fillonisme libéral-conservatisme, avec un peu moins d'excès que les autres candidats. Peut-être que ça correspondait au centre de gravité de son parti. Et enfin, il y avait une personnalité qui tranchait par définition avec celle des autres candidats. Elle était à la fois la plus jeune, la seule femme, et puis avec des formules. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Quand on regarde les 6 études d'intention de vote qui ont été publié cette semaine, on voit qu'il y a une progression spectaculaire. Il aurait pu ne rien se passer. Hein, c'était une petite primaire, on l'avait dit. Malgré tout, ça a produit un effet. Mais, et c'est le seul point sur lequel j'aurais terminé, c'est il faut relativiser ce qui s'est passé. Je me suis amusé à regarder quelle avait été la progression des candidats qui avaient gagné les primaires depuis 10 ans. François Hollande, en 2011, gagne la primaire contre Martine Aubry. Plus 10 points dans la semaine qui suit. François Fillon bat Alain Juppé en 2016, plus 9 points dans la semaine qui suit. Benoît Hamon, on l'a oublié, bat Manuel Valls, plus 12 points dans les mêmes enquêtes IFOP. Donc l'enjeu maintenant pour Valérie Pécresse, c'est de garder ce qu'elle a conquis.
Oui, en effet, je pense que le point le plus saillant cette semaine, c'est cette espèce d'emballement qui est visiblement assez peu rationnel, dans la mesure où il faut bien rappeler ce que vient de rappeler Gilles, à savoir le fait que tout ça est à prendre avec du recul. Il s'agit avant tout, j'allais dire, et c'est terrifiant de le dire comme ça, d'un nouveau produit sur le marché et donc d'un attrait pour le nouveau produit. La question va être ensuite de revenir à un véritable rythme de campagne politique, c'est-à-dire avec une analyse réelle de ce qui est proposé, du programme. On se souvient que quand François Fillon avait commencé à proposer son programme, c'est là où il avait commencé à dégringoler, avant ces affaires de costard et les révélations du canard enchaîné. Deuxième point, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette espèce d'enthousiasme immédiat, en effet, qui est très frappant dans une partie de la presse. C'est le côté terriblement rassurant pour beaucoup de commentateurs de voir revenir ce fameux clivage gauche-droite. Parce qu'en fait, il y a cela. Il y a cette idée que avec le retour des Républicains, il y aurait derrière le retour d'une alternance classique. C'est-à-dire, si c'est la droite cette fois-ci, avec un peu de chance, c'est la gauche la fois suivante. Et on a ce côté de cet ancien monde qui revient et qui semble beaucoup plus simple à gérer que ce que Emmanuel Macron avait fait émerger, d'autant plus que le programme de Valérie Pécresse, c'est quand même, à peu de choses près, le programme de François Fillon de 2017, qui lui-même n'était pas particulièrement novateur et à la pointe de l'analyse de l'état du monde en 2017. Et que dire de ce qui s'est passé depuis ?
Non, en l'occurrence, ce clivage gauche-droite, on va évidemment en reparler avec notre invité dans un instant. Gilles, pour conclure.
Oui, deux leçons. Rien n'est acquis pour Valérie Pécresse, il ne faut pas s'illusionner sur cet emballement, et donc elle a de nombreux défis personnels, politiques, stratégiques encore à relever, mais surtout, rien n'est acquis pour chacun. On voit que le registre maintenant de la norme dans une campagne présidentielle, c'est celui de la surprise.
Vous allez chanter du Brassens, rien n'est jamais acquis à l'homme.
Ni sa force.
Ni sa force, et d'ailleurs on en parlera aussi avec notre invité, puisque c'est un moment important que nous célébrons, celui de l'anniversaire de Georges Brassens cette année. 100 ans que naissait Georges Brassens. À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec l'historien Christophe Frochasson.